Paul Masson a été et est toujours un militant et un défenseur de l'éducation populaire, un mouvement qui a vu son origine dès la Révolution française de 1789. Il avait déjà sorti un premier livre sur le même thème en 2014, « Chemin et mémoire », qui racontait son parcours de vie marqué par un engagement fort dans l'éducation populaire. Avec son tout nouveau livre paru aux éditions du Petit Pavé, qui s'intitule « L'éducation populaire, un phénix toujours renaissant de la Révolution française au mouvement MeToo », il nous aide cette fois-ci à comprendre en quoi l'éducation populaire constitue un enjeu majeur pour la démocratie. Entretien avec l'auteur pour en savoir plus historiquement sur ce mouvement, réalisé avant la présentation de son livre au Centre social Georges Brassens d'Arras. Paul Masson, d'abord, pourquoi avoir choisi l'image ou la métaphore du phénix ? Expliquez-nous un petit peu.
L'éducation populaire, j'ai l'impression que maintenant, c'est de l'histoire ancienne. C'est des choses qui seraient passées après 1945, mais ça n'existait plus. Et en fait, si on regarde l'histoire de l'éducation populaire, l'histoire populaire, elle existe toujours. Mais elle prend des formes différentes. Et on est à une période où une forme dominante autour des grandes fédérations est en train de disparaître, puisque les financements publics disparaissent pour favoriser ça, mais on voit apparaître des nouvelles formes. Je pense, si à Arras, des lieux comme le Rat-Perché, on est en plein dans l'éducation populaire. Je pense, je suis intervenu pour présenter le livre au Chouka des Tours, au Mont-Saint-Éloi. On est dans des nouveaux lieux d'éducation populaire. Un lieu comme le lieu autogéré de Liévin, le lac de Liévin, c'est un lieu d'éducation populaire nouvelle. Donc c'est renaissant. Mais si on part depuis la Révolution française, on s'aperçoit qu'il y a des formes d'éducation populaire très différentes.
Donc du coup, et vous allez jusqu'à hashtag... Enfin, MeToo, hein. Enfin, hashtag, le hashtag n'apparaît pas, mais le MeToo. Pourquoi avoir fait ce cercle de 1789, la Révolution française, jusqu'au mouvement MeToo ?
Alors déjà, pourquoi commencer en 1789 ? En 1789, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir le peuple qui existe comme force sociale reconnue. Avant 1789, il y avait du peuple, mais on s'en foutait complètement. C'était l'aristocratie qui dirigeait les gens. Mais en 1789, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ah, le peuple ? Alors c'est qui ce peuple ? Et dès le départ, on va s'apercevoir que si on veut que le peuple gouverne, eh bien il y a nécessité qu'il ait les capacités à gouverner. En 1789, les états généraux, le peuple, qu'est-ce qu'il envoie ? Il envoie les avocats, il envoie les notables. Et lui-même, ils n'ont pas les mêmes intérêts que les notables qu'ils envoient. Donc, démarrage de 1789, c'est avec l'existence du peuple. Et à la question à quel peuple on s'adresse, je suis parti de l'idée, ceux qui ont fait l'éducation populaire, ceux qui s'y sont investis, à qui ils s'adressaient. Je n'ai pas cherché à définir le peuple a priori, mais de repérer dans l'histoire qui s'adresse à qui. Pourquoi jusqu'à MeToo ? Parce que une des fonctions de l'éducation populaire, c'est de permettre l'émancipation du peuple. C'est-à-dire faire que les catégories sociales dominées aient la possibilité de se saisir de leur pouvoir. Et j'écris ça au moment du coronavirus, en pleine période MeToo. Et je me dis, mais le mouvement MeToo est en train d'initier de l'éducation populaire. Et pourtant, il ne s'en revendique pas. Et alors j'ai essayé avec MeToo de repérer qu'est-ce qui était commun dans la démarche de MeToo qui rejoignait l'éducation populaire, et puis qu'est-ce qui était différent, qui faisait qu'il ne se revendiquait pas de l'éducation populaire. Voilà pourquoi pourquoi je commence en 1789 et pourquoi je finis avec MeToo. Mais après MeToo, j'ai encore aussi des initiatives nouvelles. Je pense des salariés qui s'organisent entre eux sous forme de SCOP pour réussir à développer, faire en sorte que les gens s'émancipent entre eux. C'est une initiative d'éducation populaire.
Voilà. En 1792, où il y a le rapport Condorcet, alors il y a une phrase qui m'a un peu interloqué. Il affirme également « L'éducation rend les citoyens indociles et difficiles à gouverner ».
Alors effectivement, dès le départ, Condorcet a conscience que si le peuple s'émancipe, eh bien, on ne pourra plus le domestiquer. Et alors c'est quelque chose qu'on va retrouver, c'est que le pouvoir en place, quel qu'il soit, va être dans un rapport de tension permanente avec le peuple qui s'organise. Et avec le fait que le peuple s'organise, présente pour le pouvoir en place un intérêt. Si on enlevait toute la fonction d'éducation populaire qui se fait dans les quartiers, l'État ne serait pas en capacité de diriger. Donc il a besoin de ça, mais en même temps, il a très peur que les gens s'émancipent et reprennent leur pouvoir de citoyen. L'éducation populaire, c'est le deuxième pied de la démocratie. Il y a un premier pied, c'est celui des élections. Et s'il n'y a pas des élections, on ne peut pas parler de démocratie, mais les élections ne font pas la démocratie. Les élections permettent seulement à certains moments de mesurer le rapport des forces. Ils n'éduquent pas. Les élections n'éduquent pas. Ce qui éduque, c'est le mouvement permanent de réflexion qui va se faire entre des gens qui ne pensent pas pareil. Et c'est cette fonction-là qui est éducative et qui est éducation populaire.
On fait un bond dans le temps en 1830. Des institutions et d'autres initiatives organisent des cours d'enseignement, des conférences, des cours du soir publics et gratuits pour les ouvriers. Et en 1860, on constate le succès des cours du soir et l'ouverture de bibliothèques populaires. Et là, ça change beaucoup de choses.
Oui. Alors, on est toujours dans ce courant de la qui suit la révolution de 1789, ou de dire qu'il faut que le peuple soit en capacité d'exercer son pouvoir de citoyen. Un certain nombre de notables, d'intellectuels, de gens qui se disent « Eh bien, si on veut qu'il exerce, on va aller les former. » Et donc, ça va être un des aspects de l'éducation populaire, des gens qui ne vivent pas la situation d'aliénation, qui font partie des gens qui sont cultivés, qui vont venir former le peuple. Mais on va avoir aussi dans la démarche de l'éducation populaire une autre démarche qui est l'auto-formation. Et alors là, c'est plus développé avec le mouvement ouvrier, avec les bourses du travail. Dans le cadre des bourses du travail, il va y avoir aussi des bibliothèques, il va y avoir aussi des conférences, il va y avoir aussi les gens qui se rencontrent. Mais ceux qui organisent l'éducation populaire, c'est des gens qui vivent la situation de l'aliénation. Et on va avoir une dialectique dans l'éducation populaire entre des personnes et des groupes sociaux qui se disent « il faut former le peuple », en référence à notre vision de la société, et une auto-organisation du peuple en référence à sa situation d'aliénation. Les deux s'inscrivent dans l'éducation populaire, ne sont pas forcément antagonistes, mais ne sont pas de même nature.
Il y a la place des femmes également dans le mouvement républicain laïque et social, parce qu'on rappelle aussi que plus tard, Jean Massé, la laïcité, etc., c'est un rapport évidemment avec l'éducation populaire. La place des femmes, justement, dans cette éducation, parce que les femmes sont un peu laissées pour compte. Elles travaillent en même temps, elles ont double ménage, enfin, elles font ménage, etc., etc. Est-ce que ça a fait avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour la place des femmes dans cette éducation populaire?
Alors, l'éducation populaire des femmes, on peut prendre que c'est une situation qui correspondrait à la même chose que la classe ouvrière. dès 1789, il va y avoir des femmes qui se disent « Mais pour quelle raison, nous, parce qu'on est femmes, on n'aura pas les mêmes droits que les hommes ?» Et entre autres, le droit de vote. Donc, dès le début du 19e siècle, on va avoir des femmes qui vont s'organiser pour essayer de s'émanciper. Ce sera essentiellement des femmes de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie, qui vivront la situation d'aliénation. Il y a des exemples de femmes qui, justement, vont décider de vivre seules avec des enfants pour pouvoir ne pas être sous le joug d'un mari. On va avoir, à l'occasion de 68, par exemple, les femmes qui vont se rendre compte qu'au moment des événements, c'était les hommes qui étaient à la tribune. Et puis elle n'y allait pas. Elle tirait les tracts ou elle faisait à manger pour que les hommes puissent se battre. Et puis, dans les années après 68, de se dire, mais pour quelle raison ? Ça sera que les hommes qui montent à la tribune. Et tout le mouvement après 68, dans les années 70, qui conduira, entre autres, à la loi Veil sur l'interruption de grossesse, c'est les femmes qui se sont organisées en référence à la prise de conscience qu'elles avaient toujours des rôles secondaires par rapport aux hommes.
On va faire un rebond dans le temps, un petit peu avant. En 1945, Peuple et culture, c'est un tournant également pour l'éducation populaire, où il y a plein de choses qui commencent à naître.
Alors, l'idée de peuple et culture, c'est intéressant, parce que son origine, l'origine de peuple et culture, c'est des gens qui se sont organisés dans la résistance. Et dans la résistance, on pouvait avoir des universitaires, on avait des paysans, on avait des ouvriers, on avait des jeunes, on avait des vieux, et il fallait se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on faisait, comment on le faisait. Donc la résistance a été un temps de confrontation de culture entre les gens.
Et aussi, il s'est basé un petit peu sur l'entraînement mental qui avait été fait pendant la résistance.
Voilà, donc à ce moment-là, il va se mettre en place l'entraînement mental, ça a été une méthode pour réfléchir ensemble. Et qui va, après-guerre, il va y avoir Peuple et Culture qui va le théoriser, et on va avoir une démarche en quatre temps, avec repérer les faits, repérer les problèmes, faire les analyses, décider de ce qu'on fait, et une fois que l'action est conduite, on regarde la nouvelle situation, de voir si ce qu'on a fait, ça a été opérationnel. Et on recommence avec aussi, dans Peuple et Culture, ce qu'on retrouve, toute la réflexion morale, le débat éthique. On était pendant la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut tuer un tel? On ne va pas tuer un tel? C'était un débat qu'il fallait se poser au cas par cas. Et quel est l'enjeu? Tuer quelqu'un, c'est pas bien. Ne pas le tuer, c'est dangereux. Ça sera peut-être d'autres qui sont. Donc ce débat éthique aussi, Peuple et Culture va le développer. Et c'est une démarche qui est très proche de ce qu'a développé par ailleurs le courant du catholicisme social autour du voir, juger, agir de la JOC. Ces deux démarches qui n'ont pas les mêmes...
On peut peut-être rappeler ce que c'est que la JOC.
Jeunesse ouvrière chrétienne, qui est une organisation des jeunes ouvriers qui vivaient la situation d'ouvriers et qui, à l'occasion de rencontres régulières, se réunissent pour regarder la vie qu'ils mènent, réfléchir sur cette vie et voir comment la modifier.
On va faire encore un bond dans le temps. On arrive dans les années 90 également, où il y a un mouvement qui naît et qui est aussi important et qui relance un peu cette éducation populaire qui avait un petit peu freiné à un moment donné. C'est ATTAC.
Voilà. Alors, ATTAC arrive à une autre période, au moment où il va y avoir une mondialisation de l'économie et où les propriétaires de grand capital vont demander aux États de s'effacer pour que ce soit le marché qui remplace le politique. parce que c'est ça, la mondialisation libérale et le néolibéralisme, c'est-à-dire on n'a plus besoin de l'État qui organise la société, donc à la limite on n'a plus besoin de la démocratie, le marché réglera les rapports entre les gens. Et le capitalisme va demander aux États de faire en sorte qu'ils favorisent tout ce qui est marché. Par exemple, la sécurité sociale est un handicap pour le marché des assurances. Les retraites, c'est un handicap. Et alors on va demander aux États, pour que se développe le marché, qu'il change de nature. Il n'a plus, on ne lui demande plus de faire en sorte qu'il organise l'intérêt général, on lui demande qu'il favorise le marché.
On va donner envie aussi d'aller voir un peu ce livre. Il y a plein d'informations, notamment avec les maisons culturelles, etc., qui sont nées après les années 40. Attaque, on peut peut-être rappeler, parce que c'est peut-être l'une des formes les plus conventionnelles, enfin les plus modernes, on va dire. On peut peut-être rappeler ce que c'est que qu'est-ce que ça veut dire Attaque exactement.
C'est une association loi 1901 qui a pour but de permettre aux personnes de comprendre le mécanisme de mondialisation qui est en train de se faire et les aider à s'organiser pour résister au pouvoir des puissances d'argent qui veulent remplacer les États. C'est la raison d'être d'Attaque.
Votre livre, il est édité aux éditions du Petit Pavé. Comment on peut se le procurer? Est-ce qu'il est disponible en librairie? Est-ce qu'il faut le commander spécialement quelque part?
Alors, il est disponible. On peut le commander à la maison d'édition. Mais sur Arras, il y a deux endroits qui ont un dépôt permanent. C'est sur le marché, dans le camion de Johanna. Donc tous les marchés, il y a possibilité de se le procurer. Et à la grande librairie, où il y a un dépôt et où le livre est en vente.
C'était un entretien avec Paul Masson, auteur de L'éducation populaire, un phénix toujours renaissant, de la Révolution française au mouvement MeToo. Il vient de sortir aux éditions du Petit Pavé et retrace historiquement l'histoire de l'éducation populaire de 1789 à nos jours. Plus d'infos sur le www.petitpavé.fr.